Campus.
Prochain arrêt, dans ton
campus.
Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
Campus.
Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard.
Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein.
Campus.
Prochain arrêt, dans ton campus.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 19h, c'est lundi 9 mai, c'est le début de la semaine, mais c'est pas grave puisque Dans ton campus est de nouveau là. Pour un nouvel épisode, pour parler de, pour découvrir, apprendre plein de choses ensemble, pour parler plus précisément de numérique. Hein, vous le savez maintenant, si vous nous avez suivis tout au long de ce semestre, c'est un peu notre fil rouge. On a reçu presque tous les groupes en fait du cours transversal comprendre le numérique, les cliniques du numérique. Et ce soir, on termine cette espèce de marathon du numérique avec les deux derniers groupes. On aura dans un premier temps celui du dossier électronique du patient avec nos invités qui sont déjà là en studio. Et à ça, ce sera avec toi, Célia. Bonsoir, Célia.
Bonsoir.
Ah, là, c'est mieux avec le micro, ouais, bien sûr. Mieux, ouais. Et oui. Et on a également Alexis donc, qui est avec nous pour parler de ce sujet.
Bonsoir.
On a Antonio.
Bonsoir.
Et Alexandra.
Bonsoir.
Voilà, alors ça, ce sera donc dans quelques minutes. On aura un deuxième groupe un peu plus tard qui viendra nous parler d'un sujet complètement différent. Ce sera le crypto-art, les NFT, tout ça. C'est des choses dont on entend vraiment parler en ce moment. On a tous une vague idée, on ne sait pas vraiment bien de quoi on parle à chaque fois. Et ben, ce sera aussi le cas en ce qui nous concerne, oui. Mais on aura des gens qui s'y connaissent un petit peu mieux, qui viendront nous éclairer sur ça. Et on aura aussi, bien sûr, Guillaume qui nous rejoindra dans un petit moment pour nous faire sa petite chronique actualité, accès humour, bien entendu. Et moi, je vous ai préparé aussi une petite chronique débrief des meilleures déclarations de crush sur Crush Unimail. Ah voilà, ça faisait longtemps. J'en avais fait une, t'étais pas là pendant le live,
non,
le live à Unimail.
Non,
ouais, y a pas eu beaucoup de messages depuis. Ouais, mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi quand même à en trouver quelques-uns bien drôles que je vais vous partager tout à l'heure. Dans un tout premier temps, on va s'écouter un peu de musique. C'est quand même pour ça qu'on écoute la radio à la base. Donc, on s'écoute Smell Like Teen Spirit de Malia J. Et on revient du coup juste après avec Alexis, Antonio et Alexandra pour parler du dossier électronique du patient. À tout de suite. Voilà, c'était Malia J, Smell Like Teen Spirit. On est de retour en direct dans ton campus sur Fréquence Banane. Et donc, pour cette première partie de l'émission du soir, on continue notre voyage dans les cliniques du numérique pour parler du DEP. Alors, dit comme ça, c'est nébuleux. Si je dis dossier électronique du patient, pas sûr que ça vous parle un peu plus, mais
c'est
avec Célia. Mais avec Célia, on va en apprendre avec nos invités également ce soir.
Tout à fait. Donc, tu as déjà un petit peu présenté les invités, mais ce soir, on a trois personnes. On a Alexandra qui est là, Alexis et Antonio. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu pour nos auditeurs et nos auditrices? Alors Alexis, commence seulement vu que tu es le plus proche.
Oui, bonsoir, Alexis Zavodnik. Je suis responsable du secteur de la santé numérique à la Direction Générale de la Santé, qui se trouve donc être à l'État de Genève. Et à ce titre, je suis responsable notamment du déploiement du dossier électronique du patient dans le canton de Genève.
Moi, je m'appelle Antonio Dantas, je suis un étudiant du Centre universitaire d'informatique en système d'information et sciences des services.
Ok.
Et moi, c'est Alexandra Villaverde, je suis assistante de recherche aux HUG dans le laboratoire d'évaluation des sciences de l'information médicale dirigé par le professeur Christian Lévis.
Donc, on voit que vous avez vraiment tous des profils extrêmement différents, pourtant, vous faites partie du même projet. Vous travaillez tous les trois sur le dossier électronique du patient. Alors, comment vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble ? Qui veut commencer ?
Alexis, peut-être.
Écoutez, nous, on a été sollicités il y a quelques mois par notre délégué au numérique à l'État de Genève, M. Alexander Barclay, qui nous a parlé de ce projet de l'Université de Genève, ce cours transversal Comprendre le numérique, et qui nous a demandé si on souhaitait présenter un projet, une question, une thématique. Et on était très partants à l'idée de rencontrer des étudiants et de voir avec eux comment ils allaient apprécier ce qu'on fait autour du dossier électronique du patient, de l'association intercantonale CARA, dont on parlera tout à l'heure certainement, et de pouvoir leur donner un cas concret à étudier. Et voilà.
Donc toi, Antonio, je pense que tu as pris le cours à travers l'université.
Exact. En fait, c'est vrai que le DEP, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est aussi vraiment intéressant et... Je pense qu'il y a pas mal de problématiques autour du sujet. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le groupe du DEP et le cours Comprendre le numérique.
Donc on rappelle que dans le cadre du cours Comprendre le numérique, on a différents cas pratiques et les étudiants se regroupent en fonction des cas pratiques. Et là, on est vraiment sur le dossier électronique du patient. Et toi, Alexandra, du coup ?
Alors, même si j'ai une expérience dans l'informatique médicale, je ne travaillais pas directement sur le DEP CARA, mais j'avais suivi un CAS, en fait, où on m'expliquait plus ou moins. Donc, j'ai pu devenir assistante suppléante pour ce cours.
Bah justement, on a parlé beaucoup du cours sur le numérique, on l'a vraiment présenté, mais on n'a pas encore reçu d'assistante. Est-ce que tu peux nous présenter en quoi ça consiste, justement, d'aider ces étudiants dans le cadre de ce cours ?
Alors, principalement, les projets ils sont mis en place déjà pour leur donner un peu d'expérience, on va dire, pratique et professionnelle. Mmh. Ouais. Mais avant tout, c'est pour leur permettre de développer ou du moins de mieux connaître leurs soft skills, donc leurs compétences sociales et transversales. Mmh. Et c'est vrai que dans chaque groupe qui est passé, il y a eu quelques petites problématiques, mais c'est avec ces problématiques aussi qu'on pense faire développer quelques compétences supplémentaires à nos étudiants. Donc voilà, l'exercice est assez intéressant parce qu'il n'y a pas que le rendu sur le DEP, mais il y a aussi mmh. toutes ces compétences annexes qui sont développées.
Le travail de groupe, oui, parce que est-ce que vous trois, vous voyez souvent, comment se passe la collaboration avec l'État de Genève ?
Il y a eu quelques échanges. Tout d'abord, une longue session d'information pour qu'on puisse expliquer à tous les étudiants qui avaient choisi ce sujet dans le cadre dans lequel ils naviguent, qui est assez complexe, avec une loi fédérale sur le dossier électronique du patient, le rôle de l'État dans cette loi, l'association CARA qui a été créée par cinq cantons, Genève, Vaud, Valais, Jura et Fribourg, pour mettre en place le DEP en Suisse romande, et puis leur donner un peu des lignes directrices en termes de recherche de faisable, j'ai envie de dire, en quelques mois, parce que ce n'est pas non plus un cours qui dure deux ans. Hein, Donc voilà, et ensuite il y a eu d'autres échanges avec des membres de mon équipe durant le projet, et puis quelques échanges d'emails jusqu'à aujourd'hui. Mmh.
Et pourtant, Tino, du coup, est-ce que tu vois ce côté professionnalisant quand justement tu as affaire directement à l'État de Genève dans le cadre d'un travail universitaire ?
Bah, c'est vrai que quand ils nous ont présenté le projet, c'était vraiment assez impressionnant.
Ouais.
On se dit qu'il y a des gens de la DGS qui sont venus nous voir. On était vraiment assez surpris. Mais aussi, c'était une très bonne surprise parce qu'ils ont apporté pas mal d'informations, je dirais même croustillantes sur le sujet. Moi, j'étais assez informé déjà. Pour le coup, c'est pour ça que j'ai choisi le cours et ce sujet en particulier. Mais beaucoup d'informations croustillantes, des insider knowledge qu'on n'avait pas forcément. Et puis bah, direct, ça nous a lancé toutes les idées qui passent par la tête quand ils nous exposent un peu les problématiques, les axes d'analyse souhaités. Et voilà, aujourd'hui, on a pu faire un travail assez conséquent sur le sujet.
Et toi, Alexandra, par exemple, tu as quoi comme retour sur le cours ?
De retour
de la part des étudiants
Alors, on va dire que c'est un cours qui est quand même relativement nouveau. Ça fait que deux ans qu'il est mis en place. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à repenser. Le retour est assez positif dans le sens où ils se sont quand même confrontés à des problématiques et ont pu développer des compétences tout en, dans les temps impartis, rendre un livrable que je l'espère de qualité. On aura la réponse demain.
Et oui, c'est demain. C'est demain. C'est vrai, si on peut donner des dates, voilà, c'est demain qu'il y a les présentations des livrables. On en avait parlé les semaines précédentes. Mais du coup, demain, c'est le grand jour. Tout est prêt, Antonio ?
Tout est prêt.
Et ben voilà.
On vous invite d'ailleurs à venir à 18h, U600.
C'est vrai, U600 ou même c'est
en live aussi. Ok, très bien.
On avait déjà tout, on avait déjà tout dit à nos auditeurs. ils n'attendent que demain, que la soirée de demain.
Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On l'a dit plusieurs fois, le dossier électronique du patient. On a parlé de cette réunion de cinq cantons, donc Suisse romande. Mais alors, qu'est-ce que le DEP et comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on en a tous un ou Expliquez-nous.
Ouais. Alors, le dossier électronique du patient, c'est un dossier qui appartient donc aux citoyens, aux patients qui décident d'en ouvrir un tout d'abord. Donc, il y a un caractère totalement facultatif à l'ouverture de son propre dossier. C'est régi par une loi fédérale actuellement qui s'appelle la LDEP, ou loi fédérale sur le dossier électronique du patient. Dans le passé, il faut savoir qu'à Genève, il y avait une autre plateforme qui faisait finalement plus ou moins la même chose, qui s'appelait mondossiermédical.ch, qui, lui, était régie par une loi cantonale. Donc à Genève, on était dans une situation très particulière quand la LDEP a été promulguée et est entrée en vigueur en Suisse. C'est qu'on avait déjà un dossier électronique du patient.
Et deux choses, oui.
On avait déjà, effectivement, un équivalent de dossier électronique du patient, mais régi par une loi cantonale. Et donc, il fallait trouver un moyen d'assurer une certaine continuité de service pour nos utilisateurs entre l'ancienne plateforme Mon Dossier Médical et puis la nouvelle plateforme qu'on a créée avec quatre autres cantons, la plateforme CARA. Et donc, cette association qui est la réunion de cinq cantons qui a décidé donc de mettre des moyens en commun pour proposer le dossier électronique du patient aux citoyens de nos cantons.
D'accord, donc on peut s'inscrire sur cette plateforme CARA, vous et moi, on peut créer un dossier électronique du patient et après pouvoir le consulter comme ça.
Tout à fait, alors il y a quelques critères d'inscription, mais la plupart des résidents en Suisse peuvent ouvrir un dossier électronique du patient, choisir une communauté de référence, ça c'est un terme qui se trouve donc dans la LDEP, communauté de référence qui au départ, d'après le législateur, allait spontanément émerger dans le paysage suisse avec des regroupements de professionnels de la santé, d'institutions, d'hôpitaux. Il se trouve que ça n'a pas été exactement comme ça. Il y a à l'heure actuelle, sauf erreur, 9 communautés de référence dans toute la Suisse. CARA en est une, hein, donc communauté de référence, c'est un regroupement chez nous de cantons qui propose à la fois donc, la plateforme technique et tous les moyens pour y accéder. Donc effectivement, n'importe qui peut ouvrir son propre DEP ou ouvrir un DEP pour quelqu'un d'autre, si c'est par exemple un parent pour son enfant ou pour une personne âgée qui aurait donné son consentement mais qui ne veut pas y accéder elle-même ou qui n'a pas la connaissance de ces outils. Alors il suffit d'obtenir d'abord un moyen d'identification électronique parce que donc tout ça est très réglementé dans cette loi fédérale avec des ordonnances.
Bien, en termes de protection des données, tout ça, ça
voilà.
Passé.
Ouais, oui, on est au plus haut niveau de protection des données possible, au même standard que dans les banques. Donc ce moyen d'identification électronique, il a été décidé que chaque canton propose son propre moyen d'identification électronique. Certains cantons avaient déjà des travaux en cours avec certaines sociétés, notamment je pense ici au canton du Jura ou Fribourg ou Valais qui eux on fait le choix de la Swiss ID, de SwissSign. Et le canton de Vaud et Genève ont fait des choix un petit peu différents. Genève a créé la Genève ID il y a un an environ pour permettre d'accéder au dossier électronique. Donc la Genève ID, c'est vraiment la clé du coffre, j'ai envie de dire.
D'accord, et le CARA, avoir un accent genevois pour pouvoir accéder à son dossier.
Exactement. Peut-être. En tout cas, donc cette clé est réservée effectivement aux citoyens genevois, ou aux travailleurs frontaliers qui ont un lien avec Genève. Donc ça, on le contrôle. Donc il est possible à Genève d'obtenir cette Genève ID directement en ligne. Il y a la nécessité de faire un contrôle de l'identité physique qui est obligatoire par la loi. Ouais. Donc on a pu le proposer maintenant en vidéo. Donc vous pouvez, et je vous invite, tous nos auditeurs, vous-même, à obtenir votre Genève ID 100% en ligne, faire votre contrôle d'identité par vidéo, par un simple appel vidéo gratuit. Tout ça est gratuit, hein, je le précise. Ouais. Et puis, une fois que vous avez votre Genève ID, cette espèce carte d'identité électronique, si on veut, de EID, vous pouvez demander l'ouverture de votre DEP CARA directement sur la plateforme. C'est le moyen le plus simple et rapide pour vous d'obtenir votre DEP. Ensuite, la LDEP n'a pas prévu qu'il y ait une notification automatique des institutions, des professionnels de la santé, comme quoi vous aviez ouvert votre DEP. Donc il faut signaler aux institutions avec lesquelles vous avez envie de donner des droits d'accès et surtout dont vous aimeriez qu'elles publient dans votre propre DEP.
Parce que, on a vu que le DEP, c'est un dossier en ligne qui va vraiment regrouper toutes vos données de santé que l'on pourra consulter. Donc c'est une sorte de dossier partagé. Donc, clairement, vous ne pourrez plus mentir à votre médecin et lui dire que vous ne fumez pas parce qu'il va savoir que vous êtes allé 8 jours acheter un pack de nicotine dans une pharmacie d'à côté. Donc, c'est des informations qui sont vraiment partagées en soi. Donc, à qui elles sont partagées? Comment ça se passe? Parce que c'est des informations assez importantes.
Tout à fait, c'est des informations ultra sensibles qui touchent à l'intimité de chacun. Et donc tout ça est bien prévu dans le cadre de la LDEP. Vous êtes totalement maître à bord, vous en tant que patient. Donc déjà, vous pouvez ouvrir ou non un DEP, il y a ce caractère facultatif dont je parlais avant. Ensuite, vous pouvez donner ou non des droits d'accès à qui vous voulez. Vous pouvez donner des droits d'accès à votre médecin traitant, à votre pharmacien, et puis par exemple au HUG, par exemple. Mais vous pouvez ne pas donner des droits d'accès à certains spécialistes que vous consultez ou à une institution où vous auriez allé une seule fois et dont vous estimez qu'elle n'a pas à connaître le reste de votre dossier. Ensuite, au niveau des documents eux-mêmes, vous pouvez leur donner un statut normal, restreint ou secret. Donc oui, vous pouvez cacher votre ordonnance de Nicorette à votre médecin traitant.
C'est ça.
Et en lui donnant un statut secret. Voilà, l'idée, c'est qu'on pense quand même que pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, l'information la plus exhaustive possible est nécessaire et garantie justement pour votre prise en charge une certaine sécurité et qualité.
Oui, on voit que, par exemple, quand on arrive aux urgences et qu'on n'est pas forcément dans un état de communiquer quelconque information et que, par exemple, l'institution a déjà ces informations, je pense que ça peut être très utile. Mais il y a l'autre côté où, quand on va chez son dentiste, on n'a pas forcément envie qu'ils connaissent tout notre...
C'est ça, c'est exactement ça. Donc,
notre historique médical,
donc, donc vous êtes tout à fait apte, vous, en tant que patient ou représentant, parce que vous pouvez le faire, bien sûr, pour vos enfants ou une personne âgée, par exemple, que vous représenteriez. Vous êtes tout à fait habilité à donner des droits à certains professionnels, pas à d'autres, de limiter ces droits également pour certains documents ou types de documents. Et puis, la protection de vos données est totalement garantie. Il faut savoir que en mode d'urgence, parce que vous l'avez évoqué, en mode d'urgence, situation d'urgence, il y a la possibilité de bypasser quand même le droit. C'est-à-dire que si vous arrivez, à l'hôpital... au CHUV alors que vous étiez patiente genevoise, vous arrivez au CHUV en accidenté et que vous avez un DEP avec donc on espère des documents pertinents, le CHUV pourra en mode d'urgence accéder à votre dossier. Vous serez notifié qu'il y a eu un accès en urgence automatiquement, donc soit par SMS, soit par email, soit les deux. Tout est logué, il faut aussi bien prendre conscience que tout est tracé, on sait exactement qui a accédé à quoi, quand. Et puis, mais par contre, c'est vrai qu'en fonction des informations de votre santé, de vos allergies, des médicaments que vous prenez ou d'autres antécédents, comorbidités que vous auriez, ça peut bien entendu être très utile pour les urgentistes qui vous soignent.
Donc on voit que c'est vraiment tout un mécanisme, ça doit être super intéressant quand on étudie l'informatique, ça doit être génial à tourner autour de cet environnement, disons. Donc justement, toi, Antonio, qui travaille un peu là-dedans, est-ce que tu pourrais me donner quelques chiffres? Est-ce qu'on a beaucoup d'utilisateurs du DEP en Suisse? Est-ce que c'est plutôt des personnes de tout âge qui vont utiliser ça? Ou est-ce qu'on a vraiment une différence sur certaines classes d'âge? Ou comment ça se passe?
Alors, c'est une question très intéressante. Tu peux me corriger, Alexis, si je dis quelque chose qui est faux. Il me semble que mon dossier médical avait plus de 50 000 utilisateurs à Genève, avant la transition vers Cara. Aujourd'hui, Cara compte plus de 5000 utilisateurs, et puis ce chiffre est en train d'augmenter, on l'espère.
Ouais.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que c'est plus les patients qui ont des maladies chroniques avec beaucoup de documentation, un suivi assez précis, qui vont avoir vraiment une motivation à ouvrir un DEP. D'accord, mais personnellement, moi, je l'ai fait. J'ai eu pas mal de gens dans le groupe qui l'ont fait aussi. On a trouvé que c'était aussi assez intéressant de pouvoir voir notre historique depuis
qu'on
est enfant DHUG. Pour certains même, tout ce qui est au niveau de postpartum, quoi. Ils sont nés et puis ils ont déjà des documents. C'est vraiment intéressant. Et puis, je pense qu'il y a un réel potentiel pour toute la population dans le DEP, comment il est déjà proposé maintenant.
Parce que toi, tu me dis que du coup, là, c'est plutôt les personnes qui ont vraiment un dossier médical assez lourd. Est-ce que toi, par exemple, tu te serais inscrit sur le DEP si tu n'avais pas fait partie de ce projet?
Alors, c'est vrai que, comme il l'a dit Alexis, il y a toute une campagne de communication qu'ils ont prévu de faire, et je pense qu'elle est très importante. Dans les deux axes qu'on a analysés dans notre groupe, c'était l'axe patient et l'axe praticien. Oui. C'est vrai qu'on a constaté qu'au niveau des patients, il y a un réel besoin d'information, d'être conscientisé par rapport au sujet et par rapport aux enjeux. Et aussi aux avantages, en fait. Et puis, c'est clair que je pense que cette communication, stratégie de communication de la part de Cara sera vraiment bienvenue sur le marché.
Bon, justement, on va parler un petit peu de cette relation patient-praticien. Quand on a justement un patient qui a accès à tous ces documents relatifs à sa santé, un peu pour la première fois pour certains, parce que pour moi, même le dossier médical, pour moi, c'est vraiment quelque chose de confidentiel, même pour moi, qu'on trouve dans le tiroir de mon médecin traitant et que je consulte strictement jamais. Donc, est-ce que ça change un petit peu le rapport qu'on a au médecin? Est-ce qu'on va moins chez le médecin quand on a un DEP ou comment ça se passe?
Alors, je pense que la première utilité, c'est quand on a un peu des questions, des doutes, on ne se souvient pas de qu'est-ce qui s'était passé, quand. Et puis aussi, ça peut être assez complexe avant le DEP d'obtenir son dossier, en fait. Ouais, est-ce que tu peux aller aux HUG et dire, voilà, donnez-moi... Enfin, pour le coup, on a fait cette analyse aussi, on a appelé les HUG, on leur a demandé quels seraient les moyens, en fait, d'obtenir notre dossier en dehors du DEP, et puis il faut envoyer un mail, pièce d'identité, archive, ouais. Point central, enfin bref, vraiment une procédure assez complexe, alors ouais. Que le DEP est vraiment là pour faciliter en fait toute cette procédure.
Donc dans le cadre du DEP, on a toutes les institutions qui vont envoyer directement les dossiers à la centrale, ça se passe comme ça?
Alors on est en train de mettre ça en place, donc comme vous le savez, c'est assez récent. Cara a ouvert ses portes il y a environ un an.
Ouais,
Genève
ouais.
était focalisée sur sa transition de mon dossier médical.ch à Cara, c'est la raison pour laquelle on n'a pas communiqué très largement au grand public jusqu'à présent. On a ciblé spécifiquement nos fameux 50 000 utilisateurs évoqués tout à l'heure et nos professionnels qui étaient utilisateurs de mon dossier médical pour qu'eux puissent avoir une continuité de service. Malheureusement, ceux-ci ont été obligés quand même de se réinscrire. C'était impossible tant sur le point de vue juridique que technique de simplement les migrer. Si les documents, on peut. Donc toutes les personnes qui se réinscrivent maintenant ou qui s'inscrivent à Cara, on se voit demander à un moment s'ils ont eu dans le passé, s'ils avaient un dossier, mon dossier médical. Mm-hmm. Et si c'est le cas, les HUG sont notifiés et donc republient l'intégralité de leur historique. Et nous sommes notifiés et donc nous publions tous les documents qui n'étaient pas publiés par les HUG. Parce qu'il faut savoir que, donc, effectivement, les HUG sont un gros publicateur dans la plateforme Cara, et c'était déjà le cas avec MDM, car ils ont mis en place tous les outils de publication automatique, y compris l'historique médical. Donc ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure concernant les questions postpartum, voilà. Mais ceci n'a pas été prévu dans la LDEP. Hein. Donc, donc c'est vraiment... Nous, on encourage la publication, y compris de l'historique, par toutes les institutions. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas prêtes encore.
Ouais,
dans le cadre des médecins de famille, peu sont en train de publier ou publient régulièrement leurs données. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de consulter son propre dossier médical. Pourtant, on en est le titulaire. Hein, face à chaque professionnel de la santé ou institution, vous avez le droit d'obtenir en tout temps votre dossier médical. Effectivement, Cara, l'outil DEP Cara, est censé simplifier tout ça. Et à terme, on espère avoir une plateforme encore plus dynamique, modulable, mais aujourd'hui, en tout cas, complète de votre dossier avec toutes les institutions qui vous soigneraient, qu'elles soient publiques, privées, que ce soit des médecins indépendants, des infirmiers à domicile ou d'autres professionnels tels que des physios, médecins dentistes, pharmaciens.
Donc pour ça, voilà, pour avoir cette plateforme justement dynamique, il y a un public à convaincre, il y a à la fois les patients, mais aussi les praticiens. Donc comment est-ce que vous allez faire ça? Comment on va convaincre son médecin traitant, par exemple? Quel est l'intérêt pour le médecin d'avoir tous ses patients avec un DEP?
Alors, c'est une très bonne question. Dans notre groupe, moi, j'ai surtout participé dans l'analyse côté praticien, justement.
Oui.
Et c'est aussi, les propositions, les recommandations que on a préparées pour Cara et pour la DGS. Je pense que de manière générale, si les praticiens ne sont pas avec Cara, ce sera difficile aussi de gagner les patients. Parce que il faut se dire que quand ton médecin, en fait, il te dit, écoute, fais ça, ça pourrait être vraiment bien pour toi et pour moi, en tant que patient. Exact. on va suivre vraiment les recommandations des médecins. Alors que là, du coup, on voit que les médecins, ils attendent un peu plus de la plateforme. Ils ont envie de plus de dynamisme sur la plateforme. Ouais. Je pense que de manière générale aussi, ils ne sont pas suffisamment informés. Ou alors ils le sont et du coup ils ont un peu des points de friction, des choses qui les dérangent un peu. On pourra peut-être rentrer sur certains de ces points plus en profondeur, mais je pense que de manière générale, le vrai front, il sera avec les praticiens.
Ouais, d'accord. Parce que toi, du coup, vraiment le but de votre cas pratique, finalement, ça a été de réaliser une étude sur l'expérience utilisateur et sur l'expérience des praticiens. Alors comment déjà est-ce que vous avez mesuré ça? Et quelles sont un peu les réactions que vous avez eues, justement? Quels sont les principaux points d'échauffement sur cette plateforme?
Des exclus.
Bon, bah alors c'est vraiment exclusif, mais bah, on a pu faire un questionnaire pour lequel on a reçu presque une centaine de réponses. Mm-hmm. Ce questionnaire était destiné à des praticiens de la santé, médecins, sages-femmes, etc. Enfin, vraiment diversifié, mais aussi à des informaticiens qui travaillent dans le milieu médical, des experts e-health et puis voilà, d'autres professionnels. Dans les réponses qu'on a reçues, bah, enfin, surtout les questions, on a posé des questions assez pertinentes, je trouve, notamment concernant les obligations légales. Est-ce que les praticiens étaient informés sur le fait que leur institution et qu'eux-mêmes allaient éventuellement devoir être affiliés à une communauté? On a pu remarquer que la majorité sont au courant. En fait, on a pu aussi leur demander au niveau technique s'ils étaient interfacés. C'est vrai que c'est peut-être un terme qui apparaît pour la première fois, mais c'est un peu ce que les AFUG, ils ont fait. Ils sont interfacés avec CARA de manière à ce qu'ils puissent publier des documents automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, le praticien, s'il voudrait vraiment publier, un médecin de famille, hein, un médecin dans un cabinet privé, il devrait publier tous les documents un peu manuellement sur ton DEP. C'est-à-dire, si tu lui dis, j'aimerais mes documents sur les 10 dernières années, il va devoir prendre tous ces documents et les publier sur ton DEP.
Donc, ça fait du travail, ouais, exact. J'imagine, ouais.
Mais après, le but, la vision à long terme, c'est vraiment aussi qu'ils puissent être du coup interfacés et que cette publication, elle se fasse automatiquement, qu'ils puissent alimenter du coup tous les DEP des patients de manière automatique sans un double effort. Et du coup, bah, quand on pose toutes ces questions, etc., on voit que bah, notamment au niveau de cet effort, c'est ce qui pose problème. Au niveau aussi, enfin, dans la consultation, on a pu poser la question combien de praticiens avaient consulté le DEP d'un patient. C'était assez surprenant positivement parce que pas mal de praticiens avaient quand même consulter le DEP des patients. Après, c'est vrai que quand on demandait la récurrence, c'était pas quelque chose de récurrent. C'est plus sur des cas spécifiques pour des problèmes des patients qui sont plus qui ont plus de soucis de la santé. Là, ils vont checker le DEP. Quelques points. Je pourrais continuer. On a fait un gros travail quand même.
Et pour ça, il y a demain, il y a la présentation de demain où là, ce sera complètement exhaustif. Alors, si vous êtes piqué par le sujet, n'hésitez pas à suivre ça directement en ligne ou alors à aller jusqu'à en U600 demain à 18h, c'est ça. Voilà.
Alors, une petite réaction de l'État de Genève concernant ces résultats.
Oui, non, alors ça ne nous étonne pas du tout. Avec la plateforme Mon Dossier Médical, on avait environ 2500 professionnels de la santé, principalement des indépendants qui étaient affiliés quelque part à MDM. Aujourd'hui, on a environ 360-370 professionnels ou institutions, parce que dans la LDEP, on parle d'institutions, y compris pour un cabinet indépendant. On a l'objectif d'ici un an d'avoir pour Genève environ 700 institutions. Sur tous les cantons CARA, on est à 900. On sait que le succès passe effectivement, notamment par les professionnels et comme l'a souligné mon collègue, donc l'interfaçage. C'est vrai que les éditeurs de logiciels primaires, ce qu'on appelle les éditeurs, les logiciels primaires sont les logiciels utilisés au quotidien dans les cabinets médicaux pour documenter les tâches réalisées par le médecin, le laboratoire, les examens, l'anamnèse, etc. Plusieurs éditeurs de logiciels travaillent activement à s'interfacer avec CARA, donc c'est sûr que le jour où, en quelques clics, vous publiez, vous pouvez lire et écrire dans le DEP, ça va simplifier fortement, fortement les choses. On y travaille avec CARA, la commission technique a des liens avec les éditeurs de logiciels primaires, on encourage ces mouvements. On travaille main dans la main avec l'Association des médecins de Genève. Donc on est bien informé des limites à l'heure actuelle. Ce qu'on avait vu par contre avec mondossiermedical.ch, ce qui est intéressant, c'est que l'effet inverse s'est aussi produit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des patients qui avaient justement Mon Dossier Médical et qui allaient voir leur professionnel en disant « Mais comment ? Vous ne consultez pas Mon Dossier Médical ?» Mais j'ai tout dedans, c'est bizarre. Enfin voilà, donc il y a le double effet. Donc c'est sûr que pour les professionnels, il faut avoir une plateforme la plus dynamique possible, la plus interopérable avec leurs outils primaires, que ça nécessite un minimum de travail et d'efforts supplémentaires pour eux, que ce soit en lecture comme en écriture, mais on compte également sur les patients qui, pour eux, on l'espère, l'utilisation du DEP, en tout cas pour ceux qui ont des consultations, des examens fréquents, des laboratoires fréquents, ouais, deviennent la norme.
Mmh. Donc ouais, on espère vraiment que cette plateforme va devenir une institution et que votre travail universitaire va permettre une amélioration des choses et une amélioration de la situation. On avait parlé la semaine dernière de ce qu'on a appelé la fatigue numérique. Donc j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que le dossier électronique du patient, ça pourrait rentrer un petit peu là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas aussi une énième chose que l'on fait de manière numérique aujourd'hui? Oui, c'est clairement une phrase de boomer. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des générations qui n'ont pas du tout envie d'utiliser? Comment les personnes se placent face à l'idée que ce soit encore un nouvel outil numérique? Qui n'est pas obligatoire, mais qui... Ouais.
Bon, bah, moi, personnellement, je trouve que finalement, on ne peut pas éviter la digitalisation, en fait, dans tous les secteurs de l'économie. C'est quelque chose qui va grandir, en fait, et qui, je ne pense pas qu'il va s'arrêter d'aussitôt. Pour moi, je suis vraiment satisfait, en fait, de l'effort que l'État, ils ont mis, en fait, pour pouvoir nous proposer une plateforme qui soit vraiment... à la hauteur de ce qu'on attend, en fait, de la part de l'État, avec des données médicales sensibles. C'est vrai que c'est un vrai coffre-fort, comme tu l'avais dit, Alexis. Et puis, finalement, c'est aussi la population qui avait voté pour la LDEP, qui souhaitait avoir un dossier électronique du patient, d'une manière générale. Du coup, enfin, je pense que ça va de soi, qu'on va utiliser le DEP... que ce soit Cara à Genève ou dans les autres cantons, ou d'autres communautés de référence en Suisse sur le long terme. Et je pense que c'est inévitable et aussi une très bonne nouvelle.
Oui, je pense qu'au 21e siècle, c'est plus possible d'avoir un système de santé qui communique par email non sécurisé. Et là, on a déjà ou fax, voire courrier postal. Et la réalité sur le terrain, c'est encore beaucoup ça. Le DEP est pour moi une première étape vers une plateforme beaucoup plus complète, modulaire, où vous retrouverez, je l'espère, toutes vos données de manière structurée et qui sera un véritable outil de santé publique. Et c'est l'ambition de Cara et de ses cantons membres et de nos directeurs généraux de la santé de pouvoir, à travers les outils de santé numérique, de faire de la santé publique, pas juste de proposer un DEP pour proposer un DEP.
Oui. Et ça se veut aussi une plateforme inclusive apparemment, parce que comme vous me l'avez dit avant, c'est l'idée qu'on peut s'inscrire nous-mêmes sur le DEP, mais je crois que nos proches peuvent nous inscrire aussi si on le souhaite et que par exemple on n'a pas forcément les connaissances en numérique.
Exactement, oui, ouais. Tout ça a été bien régi par la LDEP justement avec la notion de représentant. Un représentant au sens de la LDEP peut être n'importe qui. De confiance à qui vous donnez finalement ce rôle et qui gère pour vous votre DEP. Alors ça peut être par exemple pour vous, pour un parent, un grand-parent ou un enfant mineur par exemple.
D'accord, voilà. Donc, merci de nous avoir parlé de ce nouvel outil de santé numérique. Donc on espère que cette plateforme va grandir, va connaître de nouveaux utilisateurs et utilisatrices et que ça deviendra vraiment incontournable.
Alors on l'espère aussi. merci à vous de nous avoir invités. Merci aux étudiants.
J'aurais peut-être une dernière interrogation. Alors, pour ne rien cacher à nos auditeurs, j'ai dû m'absenter quelques secondes pour aller ouvrir à notre cher Guillaume qui nous a rejoint. Alors peut-être que vous l'avez abordé pendant que j'étais pas là, mais on sort quand même d'une période, d'une pandémie où les questions d'antécédents et de relations en fait à la santé publique ont été quand même beaucoup questionnées. Du coup, ma question est un peu double. Est-ce que justement le Covid a entre guillemets accéléré la volonté de mettre en place ce genre de plateforme? Et est-ce que à l'avenir, si et puisse l'avenir nous en préserver, on est de nouveau confronté à ce genre de problématiques, est-ce que du coup ça pourrait devenir obligatoire et non plus facultatif?
Alors c'est une très bonne question. Le Conseil fédéral a mis en consultation il y a 2 semaines maintenant, enfin va mettre en consultation, mais a annoncé qu'il allait faire une révision assez profonde de la LDEP, et notamment la question du caractère facultatif, doublement facultatif, hein, facultatif pour les citoyens patients et facultatif pour les professionnels de la santé. On ne l'a pas abordé avant, mais le DEP aujourd'hui n'est pas facultatif pour les institutions de santé stationnaires, pour les EMS, pour les maisons de naissance, pour les centres de réadaptation. Il n'est pas facultatif depuis le 1er janvier pour les nouveaux médecins qui s'installent à charge de la LAMAL. Il reste facultatif pour tous les autres. Et ça, le Conseil fédéral recommanderait de supprimer et de rendre obligatoire l'utilisation du DEP pour tout professionnel ou institution de santé. En ce qui concerne les citoyens ou les patients, aujourd'hui, il est totalement facultatif. Donc vous êtes totalement libre d'ouvrir ou non un DEP. Le Conseil fédéral va mettre deux options en consultation, sauf erreur. Une option qui est le statu quo, donc identique à la situation actuelle. Et la seconde qui est de faire un système de opt-out, c'est-à-dire on ouvre des DEP pour tout le monde et si vous ne le souhaitez pas, vous vous opposez. Ouais. Un petit peu à l'instar de la votation du 15 mai prochain sur la transplantation d'organes, où le don présumé serait, si le peuple décide, acquis, donc un système de opt-out, on peut dire je m'oppose à mon DEP. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une question qui est en cours et qui va être débattue certainement déjà entre les cantons suisses alémaniques et suisses romandes. C'est pas sûr qu'on ait le même alignement, et puis ensuite bien sûr présenté aux chambres et donc voter dans quelques mois, on l'espère, le plus vite possible pour qu'on ait un cadre légal très clair et si possible optimisé par rapport à celui actuel.
Ça montre bien que c'est des enjeux quand même très très actuels.
Et l'effet de la pandémie justement sur ça, sur les inscriptions au DEP par exemple, parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même une grande crise de confiance envers la médecine, envers la science, même pendant le Covid. Qu'est-ce que ça a fait justement sur les inscriptions au DEP? Est-ce qu'on avait plus d'inscriptions?
Alors, sur les inscriptions au DEP elles-mêmes, je ne saurais pas vous dire, parce qu'on a vraiment lancé le DEP un peu en même temps. C'est-à-dire que nous, Genève, qui avons environ 5 000 DEP, on est le plus grand pourvoyeur de DEP en Suisse. Cara a 90% de tous les DEP, Genève en a 80%. Et c'est vrai qu'on s'est focalisé sur les anciens utilisateurs de mon dossier médical. C'est que maintenant qu'on passe en phase un peu plus offensive en termes de communication auprès du grand public. Par contre, la pandémie a clairement montré la fracture numérique dans le domaine de la santé. Il y a eu un monstre retard. Je crois que tout le monde l'a vu, hein, notamment.
Et on parlait de fracture numérique il y a quelques semaines dans ce même cadre, cette série.
Il y a un véritable retard. C'est démontré par des études très sérieuses en termes de santé numérique en Suisse. On est très en retard par rapport à d'autres pays européens ou ailleurs, enfin de l'OCDE, et il y a vraiment quelque chose à rattraper ici. Donc on a montré les faiblesses, j'ai envie de dire, grâce au Covid. Maintenant, à nous de réparer les failles ou de construire ce qui manquait. Voilà.
On espère que ce nouvel outil va permettre de réparer cette fracture numérique qui est liée principalement au domaine de la santé. Oui.
Voilà, nous voilà donc beaucoup mieux informés sur ce qu'est le DEP, dossier électronique du patient, qui est une sorte de technologie où tout est inscrit, c'est protégé, on y a accès et on peut donc tout lire, tout voir, tout savoir sur ce qui a été sur la question de notre santé. C'est un peu la blockchain de la santé.
Ah ouais.
Et c'est une transition toute trouvée pour le prochain groupe qui arrivera enfin. Ouais, j'ai un peu galéré quand même pour l'amener.
Pour la sortir celle-là, ouais.
La blockchain de la santé. On va reparler de blockchain en fin d'émission avec le dernier groupe de secours, comprendre le numérique, les cliniques du numérique, pour parler de crypto-art, de NFT, tout ça. Donc voilà, petit lien avec la blockchain. Merci Alexis, Antonio, Alexandra d'avoir été avec nous ce soir. Bon courage Antonio pour ta présentation demain.
Merci.
C'est demain donc où tous les groupes présentent leurs livrables et donc gros événement.
Grosse pression.
Non, pas grosse pression. Il nous a dit que tout était prêt, tout était fin prêt et qu'il y aurait pas de problème.
Pas de problème.
Et avant de parler de crypto art et de NFT, on aura également Guillaume qui sera là, qui nous a rejoint. Salut Guillaume.
Tu m'as muté.
Voilà, je t'ai muté parce que je savais sinon on n'aurait jamais fini avec toi.
En plus, j'avais une question super intéressante.
C'est vrai.
Mais bon.
Alors, en deux mots. Alors.
En off. Non, c'était assurance maladie. Des fois, on était en train de. Il y avait une possibilité, notamment en consultation au Parlement, je crois, de demander des historiques médicaux ou de rendre obligatoire ou facultatif volontaire, ou en tout cas pour adapter les prestations.
Il y a eu une confusion, je pense, parce que le Conseil fédéral a annoncé qui souhaitait rattacher le DEP à l'AOSPA pour donner accès à votre assureur maladie, ce qui est totalement exclu dans la LDEP, assureur maladie et employeur, mais pour pouvoir faire en sorte que la Confédération ait un rôle clair dans le dossier électronique du patient. Aujourd'hui, avec la LDEP, la Confédération n'a pas un rôle très clair et on souhaite également clarifier les rôles entre Confédération, canton et autres acteurs de la santé dans nos cantons.
Super. Me voilà rassuré.
C'est bon, on est complet. Alors, Gina, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir, Alexis, Antonio, Alexandra. On se quitte quelques minutes avec The Blaze Places. Et ensuite, on retrouve Guillaume. Alors, après l'arc élection présidentielle française, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il nous a préparé pour cette petite chronique. On le saura du coup juste après The Blaze. Et voilà, donc à tout de suite. Restez bien avec nous sur Dans ton campus et Fréquences Bananes jusqu'à 20h30 ensemble. Merci de commencer la semaine avec nous. On est de retour en direct sur Fréquence Banane, c'est Dans ton campus qui continue jusqu'à 20h30. Et comme je vous le disais juste avant d'écouter The Blaze Places, eh ben on retrouve notre ami Guillaume qui nous vient parler qui vient nous parler d'actualités avec son petit ton humoristique. Je le disais, on s'était quitté sur cet arc monumental des élections présidentielles françaises. Sur quoi on part maintenant que tout ça s'est terminé?
On va parler de quelque chose de plus terre à terre, mais qui est tout aussi important. Ce sont les agressions dans la rue.
Ah, un sujet tout aussi léger, voilà. Les petites agressions.
Ouais, léger. Un peu lourd, ceux qui agressent, mais voilà. Ouais. Allons-y. L'autre jour, alors que je dégustais goulûment un sorbet en forme de bite que j'avais moulé moi-même à l'intérieur de ma pocket pussy, je me suis fait traiter de, je cite, « sale tapette » par une bande de jeunes qui suçaient des choupa choups, sans visiblement se rendre compte qu'eux et moi exercions le même mouvement de succion sur deux objets différents, certes, mais qui n'en charrient pas moins la même symbolique. Alors je me suis dit, se faire traiter de pédé, ça a très... ça me faisait penser à toi, ce qu'on disait avant. L'expression qu'on utilisait avant. Bref, je me suis dit, se faire traiter de PD, ça tient à très peu de choses finalement. En fait, il suffit de sucer des glaces à l'eau, de lécher lassivement une choupa choups ou, comme du stand en plus fort que moi, de se laisser uriner dessus et insulter par des bodybuilders encagoulés pour que des gens se permettent de supputer ouvertement notre orientation sexuelle. Bon, personnellement, cet épisode ne m'a pas tant choqué que ça puisque je jugeais ces jeunes gens ignorants et incapables d'imaginer le plaisir de se faire palper la prostate par trois hommes différents au milieu d'une soirée échangiste dans un palace parisien. J'excusais donc leur bêtise par leur jeune âge et me disais que tous les ados ne sont pas comme eux, d'autant que la plupart des jeunes d'aujourd'hui jouissent d'au moins 3 heures d'éducation sexuelle par semaine dans leurs établissements scolaires respectifs, ce qui les rend plus au fait des problématiques de genre et sexuelles. Baptiste ?
Ah mais moi je suis au courant de tout, je suis un expert si vous voulez des cours, c'est le petit dans Sex Education, c'est de moi qui l'a inspiré, hein. C'est une histoire vraie à la base.
Bref, durant cette heureuse réflexion, je déballais une banane comme font les singes, c'est-à-dire par le gland et non pas par le nœud, quand j'eus maille à partir avec un vieillard cette fois-ci, qui déclara en passant à côté de moi, s'il n'est pas de la jaquette celui-ci, qu'on me les coupe. Phrase à laquelle je répondis en agrippant le pinel rouillé que j'emporte toujours avec moi quand je sors, pour répondre aux violences symboliques par la violence physique. « Merci pour le compliment », dis-je alors au vieillard plaqué contre le sol et maintenu par mon genou, tandis que je m'efforçais de lui sectionner les parties génitales en promettant de les cuisiner à point et non saignantes, comme j'ai pour habitude de les manger. Ce à quoi il répondit « Ça le tente », avant de perdre connaissance et de marquer le trottoir de l'ensemble des 7 litres de sang qui circulaient quelques minutes auparavant dans ses veines. Continuant ma route, j'apercevais alors deux graines de fascistes, crâne rasé, blouson Lonsdale, me sifflant, ergotant à mon sujet et courant ensuite dans ma direction. Il ne m'en fallut pas plus pour prendre mes jambes à mon cou et se faisant marcher sur les fesses jusqu'au kiosque PMU du coin où je me réfugiais en priant pour qu'il ne m'ait pas vu y entrer. Ni qu'il fût pris d'ailleurs d'une envie soudaine de s'offrir le dernier Valeurs Actuelles. Cela dit, à leur apparence, il y avait très peu de chance car c'est tout juste s'il devait savoir lire. Je profitais alors de cet instant de répit caché derrière une étagère de souvenirs dont je me demandais si l'un d'eux eût pu servir à assouvir mes désirs sexuels. Pour m'interroger...
Qu'est-ce que tu fais, tu interromps les chroniques comme ça, non, mais c'est incroyable, non mais viens ici. Non, tu vas pas t'en tirer comme ça ma chère Célia, viens ici, qu'est-ce que voilà. Tu as fait là, dis pardon à Guillaume.
Ah non, mais tu dans ce micro là.
Non mais c'est incroyable.
Ça sent la chèvre ici.
Ah non mais là c'est du live hein. Là c'est que du live.
C'est totalement du live.
Vous pouvez pas en douter.
Ça tombe bien parce que je profitais alors de cet instant de répit provoqué par Célia, caché derrière une étagère de souvenirs dont je me demandais si l'un d'eux eût pu servir à assouvir mes désirs sexuels pour m'interroger pourquoi tant de haine était ostensiblement déployée à mon encontre depuis que j'étais sorti ce matin déguster mon sorbet fraise. Était-ce mes talons de 34 cm, mes barésies ou ma perruque vert fluo qui leur provoquait tant de répulsion? Mon accoutrement remettait-il en question tout ou partie de leur identité de mâle viril et dominant? On avait pourtant évolué depuis la cage aux folles. Mon hypothèse se confirma cependant quand j'entendis le buraliste du PMU où j'étais toujours recroquevillé déclarer à un pilier de son bar « Voilà encore une tarlouse qui se réfugie chez nous », en me montrant du doigt. « Tu crois que c'est un LGBT machin queer ?» lui répondit son ami en mimant ma perruque. « Je sais pas, » dit-il, « mais ce que je sais, c'est qu'il va me faire perdre des clients s'il reste ici trop longtemps. » Allez, oust, dehors la folle, me dit-il. Et ouais, en 2022, on en était toujours là. Et merci à Célia pour son interruption.
Non mais franchement, bah si vous voulez, si du coup ça vous a coupé dans votre écoute, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à réécouter cette magnifique chronique en podcast, hein, ça arrivera très très bientôt. Et puis si vous nous écoutez, c'est que c'est déjà arrivé. C'est un petit peu Inception et compagnie. Hein. Mais tu sais ce qui me fait vraiment rire, c'est qu'on a passé une demi-heure vraiment avant à parler de dossier électronique du patient qu'on a abrégé DEP pendant...
Ouais. Tu sais, quand je suis arrivé tout à l'heure dans la salle, vu que je suis arrivé un peu en retard, j'arrive toujours en retard, on me déroge pas à la règle. J'ai entendu genre au moins peut-être 5-6 fois le mot DEP. Et,
ouais, les DEP c'est facultatif.
et je me suis dit, putain, mais ça, enfin, désolé pour les injures, mais je me suis dit, purée, mazette, nom de Jésus.
Il suffit que je m'absente 5 minutes pour qu'ils aient tous la folie des grandeurs.
Voilà.
Ah non, mais c'était génial. Mais du coup, merci d'avoir remis l'église au centre du village concernant tout ça. Et on parlait bien de dossier électronique du patient, évidemment.
Voilà. Et on voulait pas de manquer de respect aux homosexuels.
Et nous, on manque de respect à personne. Voilà. Et on vous manque tellement pas de respect, chers auditeurs, qu'on va vous faire passer une petite musique. C'est Porter Robinson, Look Out to the Sky. Et ensuite, on se retrouve avec une petite chronique, encore une fois, sur le ton de l'humour, puisque ce sera un nouveau débrief des meilleurs déclats sur Crush Cinema, non, c'est ça?
Hein, je crois que c'est ça. Ouais.
Tu me fais des petits signes avec les yeux, c'est quoi?
C'est qui fait ça?
C'est moi, ça. Allez, à tout de suite. De retour en direct sur Fréquence Banane dans ton campus qui continue jusqu'à 20h30 ensemble. Et avant de passer au dernier groupe du cours, comprendre le numérique avec ce sujet du crypto-art, des NFT et tout ça, on va se détendre un petit peu parce que je sens que dans quelques minutes, on va devoir réfléchir, on va devoir parler de sujets compliqués. Donc là, on va juste rigoler pendant quelques secondes parce que je vous ai préparé une nouvelle chronique, un nouvel épisode des débriefs, des meilleurs messages sur Crush Unimail. Je sais que tu aimes ça, mon cher Guillaume.
Oui, j'aime ça.
Alors, ferme bien la porte, Célia, qui a décidé de ruiner toute notre
chronique. Moi aussi, j'aime bien cette chronique. En plus, du coup, je suis revenu.
Voilà, elle est revenue exprès. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on parte tout de suite. Comme ça, on reste dans les temps, parce que là, c'est rare qu'on soit pas trop en retard. Du coup, c'est parti. Courte chronique ce soir. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux messages depuis le live à Unimail, mais malgré tout, j'ai remarqué quelques trucs sur ce compte Crush Unimail. Alors, on commence avec ça. Aidez-moi à trouver le Insta d'un blond en traduction avec un oreiller bleu et blanc. Alors on est sur le message le moins détaillé du monde, c'est officiel. Je pense que si tu joues au qui est-ce avec cette personne, la partie dure au moins un mois. En fait, si ça se trouve, elle n'a juste pas compris le concept du compte. Hein. Elle n'a vu personne, elle a juste envie qu'on lui envoie l'Insta d'un mec blond parce que elle aime les mecs blonds. Ensuite, on a ça. Alors, salut, je cherche pour une copine un mec qui fumait à l'entrée de maille côté tram aujourd'hui. Il portait une jaquette bleue, un pantalon beige et une casquette rouge. On la connaît cette technique. C'est pas pour moi, c'est pour un pote. Ami. Pas nous, Jimmy. On sait très bien que c'est toi qui as besoin de ce Viagra, d'accord? Et enfin, mon message préféré du jour, c'est écrit en majuscule les premiers mots, Spotted Dieu grec.
Oh. Alors là, donc il était tout nu avec un petit zizi.
On tient peut-être le début d'une belle légende entre un dieu et une mortelle. C'est toujours sympa. On sait que Zeus notamment aimait bien en attraper de temps en temps. On continue le message. Je recherche un beau mec au cours de politique suisse du 4 mai. Il était à la deuxième rangée. Alors on note déjà que les dieux grecs s'intéressent à la politique suisse, et à vrai dire c'est plutôt flatteur, non?
Ouais.
Alors je sais pas si c'est la sexitude d'Ignacio Cassis ou d'Alain Berset qui ont rendu jaloux Apollon au point qu'ils veuillent prendre leur place, mais quand même.
Non, c'est le prof, c'est Pascal.
C'est Pascal Scarini, ouais, exactement.
Schwelt est lancé.
La véritable restade de l'Uni. Alors, le message continue. Il était assis entre un mec et une fille. Le mec avait des lunettes. Et derrière lui, il y avait un gars avec un pull jaune très flashy. Ok, donc il y a carrément tout l'Olympe qui a décidé de suivre les cours de politique suisse. C'est incroyable. Est-ce que vous connaissez Percy Jackson, les amis?
Non.
Les films sont éclatés.
Ouais, les livres, c'était bien. Bref, on n'est pas là pour faire des placements de produits. Dans Percy Jackson, l'Olympe, les dieux et les déesses se déplacent dans l'histoire pour toujours rester au cœur du lieu central de la civilisation humaine. Du coup, dans les livres, ils habiteraient dans le ciel au-dessus de l'Empire State Building à New York parce que ce serait devenu le centre de la civilisation humaine. Alors pourquoi les dieux se mettraient-ils à suivre des cours de politique suisse? Prévoient-ils de déménager en Suisse? La Suisse serait-elle en passe de devenir le centre névralgique du monde? J'aurais pas misé là-dessus, mais qui sommes-nous pour contredire le jugement des dieux? Qui sommes-nous?
C'est le succès de la Genève internationale.
C'est boring, la Suisse.
Non, mais dis pas ça. Tu n'es personne pour me remettre en question le jugement des dieux. Écoute, si les dieux l'ont décidé, c'est que c'est comme ça. La Suisse sera le centre du monde pour les 3 siècles à venir. Bon, je m'emballe peut-être un peu.
Habituellement, c'est la France, non?
Ah non, ce sera la Suisse.
Depuis qu'on les a battus au foot.
Ils suivent politique suisse, mais c'est ça. Les dieux grecs ont choisi la Suisse, c'est comme ça, faut s'y faire. Bon, je m'emballe peut-être un peu comme notre amie qui croit voir un dieu dès qu'elle croise un mec avec un beau sourire. Suite et fin du message, il est tellement beau, on dirait un mélange de DiCaprio et de Brad Pitt. Alors,
je suis pas sûr que ça fasse un très bon mélange des deux.
Ouais. Loin de moi vraiment l'idée de critiquer les choix de notre ami, mais j'ai l'impression que mélanger Brad Pitt et Leonardo, ça donnerait juste une espèce de Channing Tatum un peu attardé. Mais si c'est l'idée que tu te fais d'un dieu grec, allons-y. Hein. Par curiosité, je suis quand même allé voir à quoi ressemblerait le gosse de Brad et Léo selon une intelligence artificielle.
Ah ouais.
Alors, chers auditeurs, vous ne le verrez pas malheureusement, mais je vous laisse la réaction de mes collègues.
Je connais quelqu'un qui ressemble à ça. Mais non, c'est ça. Je suis sûr, ça me dit quelque chose.
Et, en fait, je sais pas quoi dire parce qu'il est cute, mais à la fois, c'est bizarre.
Ouais. Bah, écoutez, franchement, je crois qu'aucune image n'aspire ton âme autant que celle-là. Les yeux du petit, c'est incroyable. Bref, soyez prudents et prudentes quand un dieu grec vient dans votre cour, on sait jamais. Et à bientôt pour un nouveau débrief. Voilà, il était dans celui-là, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de messages, mais je me suis accroché à celui
de la métaphore du dieu.
Qu'on vous invite vraiment à publier sur Instagram si vous voyez quelqu'un. Ouais. Aidez-nous.
Surtout si vous voyez Baptiste qui
est crush underscore unimail. Nos amis de crush underscore unimail sur Instagram, allez, si vous voyez quelqu'un qui vous séduit à l'uni, unimail ou ailleurs. Hein, on l'a bien vu dans le dernier épisode, il y en a qui étaient à la jonction. Ouais. Il y en a qui étaient à la jonction et ils demandaient quand même à ce qu'on retrouve leur crush. Donc bon, on peut faire un petit peu comme on veut finalement. Donc, quelques minutes en compagnie de Kungs et Never Going Home. Et puis ensuite... Ça tu connais. Ce petit air là. Et ben on passe quelques minutes avec Kungs et ensuite on revient pour parler crypto art et NFT. Voilà, on change radicalement d'ambiance. Et je vous l'ai dit, c'est ce fil rouge des cliniques du numérique. Comprendre le numérique, c'est juste après Kungs. C'est l'équipe de Dans ton campus qui est en direct jusqu'à 20h30 sur Fréquence Banane. Et j'ai l'impression qu'on avait Guillaume qui est presque triste que Kungs s'arrête. Il était en train de fredonner. Il aime bien ça. On termine cette émission en étant, j'ai envie de dire, intellectuel. On va de nouveau parler d'un sujet sérieux. On a bien rigolé avec Guillaume, on a bien rigolé avec Crush Unimail. Maintenant, on termine ce cycle d'interviews sur les cliniques du numérique, le cours transversal de comprendre le numérique, avec le dernier groupe, et pas des moindres, c'est celui du crypto art, des NFT. Et pour ça, le studio s'est un petit peu réorganisé, puisqu'on reçoit deux nouvelles personnes. On a tout d'abord Loris, bonsoir.
Bonsoir, enchanté.
Et on a Ambre.
Bonsoir.
Alors, avant de parler de crypto, de blockchain et tout ça, il faut qu'on fasse connaissance parce que on va dire des gros mots, vous et moi. Là, on va parler de trucs que personne ne comprend. Donc, on a besoin de se connaître un peu. Ambre, qu'est-ce que tu fais à l'université?
Alors, moi, je suis en troisième année de relations internationales, mention droit. Donc, rien du tout à voir avec les blockchain. Puis, voilà, quoi.
Et toi, Loris?
Moi, je suis en dernière de bachelor en sociologie à fac de sciences de société.
Et bah ça, c'est la beauté de ce cours Comprendre le numérique. C'est des gens qui sont d'horizons très, très différents, qui se retrouvent pour parler d'un sujet très précis, parfois, comme tu l'as dit, Ambre, éloigné de leur champ d'études. Et c'est un peu le cas, du coup, du crypto-art, puisqu'il n'y a pas vraiment, à part un cours très pointu en informatique de fac qui va traiter de ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend simplement par crypto-art dans les grandes lignes?
Je vais me permettre de répondre. Les crypto-arts, ça serait le monde de l'art numérique. Et en gros, c'est pas beaucoup les NFT actuellement parce que ça a fait un bond vraiment en avant sur tous les réseaux, sur toutes les spéculations qu'il y a pu avoir dernièrement. Mais concrètement, il peut y avoir plein de formes d'art numérique. Il peut y avoir des pistes son, des vidéos. Il y avait vraiment pas mal de choses qu'on a pu retrouver. Donc le monde de l'art numérique, ouais, concrètement, c'est ça, les crypto-arts.
Et pourquoi c'est un enjeu? Pourquoi ça fait l'objet d'un cas pratique dans le cadre de ce cours Comprendre le numérique? Parce que voilà, on pourrait se dire, bon voilà, c'est des œuvres d'art numérique, c'est une image en ligne, un son. Pourquoi? Quel est l'enjeu derrière ça? Qu'est-ce que vous allez traiter dans le cadre de votre cas pratique?
Alors déjà, on en parle tout simplement parce qu'on fait un cours sur Comprendre le numérique et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et qu'on en parle, comme a dit Loris, énormément, mais c'est... C'est un peu un thème très compliqué que pas grand monde comprend. Et nous, on est là pour essayer de vulgariser la chose et de faire comprendre aux gens qui connaissent pas grand-chose quelle plateforme utiliser, etc. Et puis la crypto-art, en soi, c'est la même chose que l'art traditionnel, sauf que c'est de l'art numérique, mais tout fonctionne quasiment pareil, sauf quelques petits détails.
Ok. Alors, avant de rentrer un peu plus en détail dans le sujet, je ne sais pas si vous avez entendu parler sûrement de ça, le Airplace sur Reddit, qui était il y a quelques semaines. C'était cette sorte de grande toile numérique où les internautes pouvaient changer un pixel. Un certain laps de
c'est
temps.
C'est toi le drapeau de la France?
Ah, j'ai participé, mon cher Guillaume.
C'est vrai, t'as vraiment participé?
Ah, mais j'ai vraiment participé, mec. J'ai tenu quelques heures pendant la nuit. Non, mais vous. De toute façon, mais dès que je dis un truc ici, on me juge. Donc voilà, oui, j'ai participé au Pixel War. Alors, le Pixel War, est-ce que c'est du crypto art, par exemple, cette sorte de toile sur Reddit où des millions d'internautes viennent faire des pixels ensemble?
Ça dépend, parce qu'en soi, c'est de l'art. Mais après, je sais qu'il y a eu la guerre des pixels. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après la guerre des pixels. Mais pour moi, du crypto art, c'est quand même quelque chose qu'on revend. Et il y a une certaine authenticité. Il faut un certificat pour une certaine œuvre. Donc, je ne sais pas si ça a été vendu après ou pas, ou juste ça a été terminé. Mais en soi...
Bah, là, je vais compléter du coup ce qu'a dit Ambre. Le projet, c'était que ça terminait. Bah, en fait, il y a eu une euphorie derrière parce que ça a terminé il n'y a pas si longtemps, en fait. Mm-hmm. Donc, tout le monde s'est affolé durant les derniers temps qui restaient pour investir et puis avoir des pixels. Et bah, à l'inverse de ce que tu dirais, moi, je pense qu'au contraire, c'est une œuvre. Yeah. Parce qu'à la fin, finalement, ça va se figer. Il y a un code unique comme n'importe quel NFT, je pense. Et les gens qui ont investi, finalement, ça reste un peu des propriétaires du micro-pixel qu'ils ont pu investir.
Alors, c'était gratuit. On pouvait participer gratuitement. Ouais.
Hein. Ah oui, ça s'effaçait, ouais, je crois, au bout d'un moment.
Ouais, justement.
Et ça redonnait
tout le temps. C'était à la fois de l'art, à la fois une expérience sociale en ligne. C'était assez compliqué, mais c'était juste pour bien visualiser un petit peu ce que c'était. Donc, toi, tu parlais, Ambre, d'un certificat de propriété, ouais. du fait de revendre... l'art en ligne. Du coup, les NFT, c'est seulement pour faire de l'argent, alors c'est simplement un business?
Bah non, moi je dirais que non. Après, je sais pas si toi tu as le même avis, mais pour moi non. Enfin, il y a les deux, dans le sens que ça permet en fait aux artistes d'avoir une plus grande visibilité et à ceux qui sont très petits de pouvoir vendre leurs œuvres, donc de se faire de l'argent. Mais après, il y a aussi ceux qui utilisent les NFT juste pour se faire de l'argent, mais c'est une petite majorité. Enfin, pas tout le monde peut devenir millionnaire en faisant des NFT, en les revendant. C'est vraiment une minorité qui profite de l'argent sur les NFT.
Mmh. Et tu voulais intervenir, Célia ?
Oui, juste même en termes d'argent, on est d'accord qu'on peut pas... on sait qui a payé, mais l'argent, la traçabilité, je sais pas trop comment ça se passe, mais on pourrait clairement blanchir de l'argent sur ce genre de plateforme.
C'est inscrit
même...
dans la blockchain, je crois.
Ouais, ah, ok, inscrit. D'accord. Ok, ouais, c'est ça, alors.
C'est ça, parce qu'en fait, le crypto-art repose en fait à la base sur cette technologie de la blockchain, ouais, voilà, ouais. Qui, très rapidement, est une sorte de livre numérique où chaque action est inscrite et que, du coup, quelqu'un qui arriverait tardivement pourrait retracer en fait tout ce qui s'est passé, suivre une œuvre numérique, savoir dans quelles mains elle est passée, savoir combien quelle valeur elle a eu, à combien elle s'est échangée. Et c'est quelque chose sur lequel on peut pas tricher en fait. C'est simple, on peut que rajouter des choses à la suite, c'est ça.
Effectivement, ouais, c'est le concept de traçabilité en fait et qui est vraiment intéressant avec les NFT. Et puis c'est ce qui n'existait pas avant. Avant, n'importe qui pouvait designer une image et la poster sur Internet, mais on pouvait pas savoir si c'était l'authentique. On pouvait pas savoir, tout le monde pouvait se l'approprier et la revendre. Là, l'avantage, c'est vraiment cette traçabilité derrière qu'il y a, comme Guillaume a pu souligner avant.
Ouais, c'est fou, parce qu'on pourrait se dire que c'est d'autant plus simple quand c'est en ligne de copier, de recoller, il suffit de faire une capture d'écran et hop, moi j'ai la même chose.
Oui, bah, on peut faire des captures d'écran des NFT si on trouve l'image belle, mais au final, elle va servir à rien, la capture d'écran, parce que ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'authenticité.
C'est ce certificat d'authenticité.
Exactement, c'est ça qui vaut de l'argent.
Ok.
T'as encore des questions, Baptiste ?
Ah, j'en ai encore, mais tu peux...
Est-ce que j'ose poser aussi une question ? ça parlait de certificat. Ouais. J'avais lu un article de Mediapart qui...
c'est lié à la transformation. Il faut savoir que Guillaume, c'est vraiment notre caution. J'ai lu un article.
C'est un gars qui a des
réactions. C'est le moment où j'ai lu un article où je connais un film ou un philosophe.
Ouais, exactement, ou un sociologue. bref, en tout cas, il prenait l'exemple, par exemple, imaginons qu'il existe le NFT de Mona Lisa, la peinture très fameuse qui est au Louvre.
Qui l'a peinte, là? Parce que si t'as lu un article, c'est qui l'a peinte?
C'est Leonardo DiCaprio, non?
Oui, qu'on a vu.
Qu'on embrasse.
Qu'on embrasse.
Bref, en tout cas, c'était pas... l'article disait qu'il y avait cette absurdité... Enfin, je sais pas comment il disait, je me souviens plus très bien. Mais qu'en fait, tu possèdes pas l'œuvre, quoi. Tu peux même pas en tirer des droits d'auteur. Donc c'est, enfin, en gros, l'article disait c'est useless de ouf. Parce que genre, tu possèdes Mona Lisa en NFT, donc tu possèdes le certificat d'authenticité, mais tu pourras jamais, par exemple, du style, si on fait la capture d'écran de ton truc, c'est ça qui m'avait éveillé ça, te prévaloir de ta possession de ce NFT pour dire non, moi je veux pas qu'il fasse, qu'il le partage ou qu'il fasse quelque chose avec mon NFT, quoi. En gros, tu peux pas le monétiser toi-même, tu l'as pour l'avoir et c'est purement spéculatif du coup parce que tu te feras de l'argent que quand tu l'échangeras de nouveau.
Exactement.
Et voilà, du coup, là, t'es critique vis-à-vis de ça. Donc, c'est juste ça ou.
Ouais, c'est totalement.
T'es spécialiste.
Spécialiste, c'est un grand mot.
Non, mais moi, j'ai peut-être lu un article, quoi. Tu vois.
Mais eux, ils ont lu au moins 10 articles.
Voilà, justement.
Ça fait 9 articles d'avance.
Nouveau de spécialité. Alors,
non, mais peut-être que tu veux répondre, hein, ou...
Je sais pas si tu veux compléter.
Bah, ouais, en soi, c'est vraiment genre, l'authenticité. Et puis, bah, t'as le titre. Et après, c'est vraiment juste pour le revendre et faire de l'argent sur la revente. Mais okay.
Ouais. En fait, je pense qu'il faut
propriétaire.
Pas...
Ouais, c'est la... mais c'est pas... purement spéculatif, c'est ça.
Oui, c'est totalement spéculatif.
La seule chose que tu affiches, c'est ton certificat d'authenticité. Tu le mets dans un cadre, tu le mets en dessous de ton bureau.
Ah, mais même pas, en fait, même pas,
on va pas se mentir, c'est dans une,
t'es dans une logique d'exposition de l'art, et je pense que
c'est vrai là, que je suis peut-être pas dans la bonne logique. En
l'art
là,
numérique, c'est pas forcément
c'est
une
vrai,
logique
hein.
d'exposition
ouais.
de l'art en fait.
T'as raison. Hein.
Parce que ouais. est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer des musées ou des expos entières sous cette forme d'art numérique?
Bah, oui.
J'ai l'impression que c'est pas le même but. C'est plus
oui,
de la de la possession du commerce plus que de ce qu'on fait avec de l'art physique en fait.
Bah ouais, par exemple, on a entendu parler du cas de Art Basel, qui est une sorte de galerie, en fait, tout simplement d'art, qui existe à Bâle. Et ils ont décidé cette année de lancer une collection NFT, enfin, sorte de vernissage, mais numérique, où tu peux, à l'achat d'un token, aller visiter les divers...
Tu visites virtuellement ou tu visites
Ouais, alors de ce que j'ai compris, ils veulent faire quelque chose d'un peu genre limite VR, un peu comme le méta, tu sais, où tu te balades et tu pourrais regarder les choses, justement les œuvres. Ouais, mais justement, c'est un peu, j'imagine, là où tu voulais en venir. C'est un peu. C'est une utilisation des NFT pour le méta de Facebook. Ouais. C'est clairement. Les gens, ils peuvent le voir comme ça, j'imagine. Ouais, mais principalement, pour l'instant, en tout cas, moi, je le conçois plus comme un. Un outil de spéculation.
D'accord, mais ça pourrait potentiellement devenir des lieux virtuels qu'on peut visiter, qu'on peut apprécier, et ce serait peut-être un petit peu justement là le retour de ce qui fait l'essence de l'art à la base quand c'était physique. Et c'est souvent comme ça qu'on l'aborde quand on est, extérieur au sujet, comme toi tu le voyais, Célia.
C'est ça, je pense qu'il faut vraiment sortir de nos préconceptions qu'on a sur l'art, sur le musée, pour pouvoir apprécier ce genre de choses. Parce que sinon, si tu restes dans l'idée que l'art c'est forcément quelque chose de physique, que tu dois aller voir au musée le dimanche, comme ça, c'est. Ouais, il faut vraiment
de facto,
tout déconstruire en fait.
Si tu te balades dans le métaverse un jour, si t'achètes un Oculus et puis tu vas Art Basel, mais totalement dématérialisé parce qu'ils auront fait dans 5 ans ça. Bah finalement tu revas de manière physique à l'endroit, mais peut-être que tu peux là alors du coup te téléporter, t'as pas besoin de payer un ticket de CFF trop cher.
Et là tu vas trop loin.
Je vais trop loin, oui, je
déconne.
Mais ça du coup c'est
avec l'idée du métaverse, on peut de partout aller à un endroit. Et ça c'est incroyable. Après pour l'histoire des musées et tout ça, pour le moment ça s'est pas encore fait, c'est vraiment un projet. Mais franchement, jamais dire jamais, vu comment les choses évoluent, il y a vraiment tout qui est quasiment possible.
Juste, ouais, parce que là, on parle de formes d'art, mais est-ce qu'on trouve toutes les formes d'art en NFT, par exemple? Dans l'art, il y a des performances, il y a des gens qui font de la danse ou des choses comme ça. Est-ce que ça existe ou je...
Bah, en soi, on peut avoir des GIFs qui sont vendus en forme de NFT, peux avoir des vidéos, même de la musique, qui sont vraiment en forme de NFT. Et enfin, après... La danse, etc., je pense pas. Ce sera plutôt peut-être une vidéo.
Les performances live, je pense que ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une histoire de... C'est enregistré, c'est capté à un moment et faut que ce soit codé, tu vois, ce genre de contenu en général, le NFT.
Ouais.
Vu que ça vient se greffer avec la technologie blockchain. Et donc du coup, je pense pas que les lives, par exemple, ce genre de trucs, ça risque d'être compliqué quand même. Mais qui sait, dans le futur, peut-être. Vraiment, j'en ai aucune idée.
Par exemple, là, ce qu'on est en train de dire, c'est enregistré. Donc si on veut, on peut en faire un NFT. Ça veut dire que dans ton campus, épisode 47, je ne sais plus à combien on est, on peut le revendre en NFT, ça veut dire.
Totalement, ouais, totalement.
Oui. Et ben voilà.
Non, je ne suis pas sûr qu'on fasse des milliers de dessins, par contre.
Là, attention, je te rappelle qu'il y a ma mère qui nous écoute. Hein. Elle peut être intéressée.
Ah oui, c'est juste. Qu'on embrasse.
On l'embrasse. C'était vraiment cette question de la conception de l'art qui change des formes d'art qui sont peut-être différentes entre le réel et en ligne. C'est une conversation qu'on avait eue au premier semestre lorsque j'avais invité le professeur Anthony Mazur, qui fait partie de l'organisation de ce cours Comprendre le numérique. Vous avez sûrement échangé avec lui au long de ce semestre.
Ouais, il est très sympa, il est très calé dans son sujet.
C'est vrai qu'il est vraiment passionné de ça.
Ouais.
Et il a dû être une source d'information et d'inspiration intarissable pour vous.
Alors malheureusement, on n'a pas eu non plus l'occasion de tant le voir que ça. On a pu le voir pendant 2 cours seulement. Mmh. Et en général, c'était pour qu'ils nous fassent des présentations, soit de nous qu'on fasse des présentations de l'avancement de nos projets, soit eux de leur côté de faire justement une présentation aussi de l'avancement de leur projet à eux. Donc malheureusement, on ne pouvait pas trop échanger, mais on pouvait prendre le temps si on voulait à côté quand même. Mais
après, il nous a proposé plein d'idées pour notre projet, comment faire évoluer notre projet. Mmh. Donc ça, c'était vraiment top. Mais c'est vrai que... Quand on parle avec lui, il apporte vraiment beaucoup d'informations, puis il s'y connaît, et ça nous aide pour nous qui formation novice.
Parce que c'est pour lui et pour la aide que vous faites votre projet, en fait, c'est ça? Dites-nous en plus sur ce lien entre eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent et qu'est-ce que vous leur offrez dans ce mandat, dans ce rapport de mandant à prestataire, on va dire.
Bah concrètement, ouais, ils sont venus vers nous au début de l'année, en fait, déjà, quand le cours a été designé avec monsieur Yanif Benamou. Et ils nous ont direct... Il y avait eu ce projet de faire quelque chose de NFT, sur les NFT, sur le crypto-art, sur la blockchain, en lien avec l'aide, parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'ils ont beaucoup d'artistes qui veulent se tourner vers ce monde numérique.
C'est une école qui parle de ça, de l'art, donc forcément, ils doivent évoluer avec ça. Et c'est là que vous les aidez, en fait, sur ça. Et donc, on a vu que, justement, ce monde du crypto-art, ces sujets, sur les 10 premières minutes de cet échange, on peut parler de choses très, très différentes. Vous, à quel aspect vous êtes particulièrement intéressé durant ce semestre? Dans quel champ du crypto-art vous avez essayé de vous spécialiser, ou alors qu'est-ce que vous avez essayé de comprendre, précisément?
Alors, nous, on s'est plutôt intéressé au marketplace de NFT, les différents types de marketplace qui existent. Et ensuite, on les a un peu genre analysés en profondeur, au niveau économique et juridique. Comme ça, après, c'est des informations qu'on peut donner aux artistes et aux créateurs. Et ils peuvent comparer les plateformes et voir laquelle est potentiellement la meilleure pour ce qu'ils veulent faire.
Et donc, ça, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que ce sera utile aux gens de la aide et à leurs collaborateurs. C'est pour pouvoir avoir une vision plus globale, plus précise de ce que sont ces marketplaces. Et du coup, c'est un sujet dont vous ignoriez tout à la base. Ça vous a quand même appris pas mal de choses?
Ah, totalement.
Totalement.
Enfin, je savais. Enfin, il y a à peu près début du semestre, on parlait de NFT. Je comprenais pas grand chose. Pour moi, c'était un peu surréaliste. Ouais. Ensuite, on en a parlé et j'ai commencé à comprendre le sujet. Et c'est devenu, genre, très, 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 très intéressant. Je ne suis pas une experte, mais maintenant, je comprends de quoi on parle.
Ok. Et du coup, présente-nous, c'est quoi un marketplace de NFT? Donc, ouais. Qu'est-ce que c'est, ça?
Alors, en marketplace, on va dire, par exemple, c'est un site où dessus, tu peux des fois créer des NFT, tu peux en vendre, tu peux en acheter. Et après, il y a aussi plusieurs formes de marketplace. Par exemple, on a OpenSea, un grand classique. Où vraiment
classique qu'on embrasse, hein, d'ailleurs.
c'est un peu genre la bible des marketplaces, si on veut. Et après, par exemple, on a Théa, qui est vraiment une marketplace pour l'art, un peu underground, si on veut. Donc voilà. C'est vraiment genre artistique, etc. Et ensuite, par exemple, on a Axie Infinity, qui est vraiment un jeu vidéo où, dans le jeu vidéo, il y a des NFT, etc. Puis on utilise ces petits personnages qui sont des NFT pour jouer. Donc ça, vraiment, on a pris plein de différents marketplaces sur plein de thèmes différents. Et du coup, voilà.
Il y a déjà des marques, je pense que oui, je crois que j'avais vu Nike designer des chaussures, des trucs comme ça.
Oui, exactement.
Du coup, dans ton jeu vidéo là dont tu parles, elles sont déjà dedans, ou elles sont en train de s'y mettre, ou elles développent leur jeu, ou elles se mettent avec Facebook
Alors, dans le jeu Axie Infinity, il n'y a pas de collaboration pour le moment. Mais après, il y a d'autres marketplaces qui ont fait collaboration avec Samsung, il y en a qui ont fait avec Nike.
Ouais, tout ce genre de grandes marques, quand ils font beaucoup en général des fringues ou des accessoires, etc., de mode, je pense qu'ils sont plus axés vers le méta déjà, parce que tu peux. Ou genre de
plateforme. Essayer.
Ouais, je sais pas, tu peux avoir ton avatar qui porte tel ou tel sac, j'en sais rien. Mais...
Ouais, ils sont en train de créer un marché, quoi, en gros.
Ah oui, complètement.
Ils sont en train de créer un marché. Tout nouveau marché. Ça pourrait brasser des milliards s'ils arrivent à intéresser les gens.
Moi, je me suis toujours dit, quand j'ai vu le film Ready Player One de Spielberg, je sais pas, mais c'est clairement une référence, tu vois. Et je pense que si le monde il évolue dans cette direction-là, il y a des chances que ça marche bien, tu vois, les NFT, vraiment.
Ouais, bon, par contre, t'as vu l'état du monde.
Évidemment, tu vois, il fait plus rêver aussi.
D'ailleurs, ça parle de quelque chose dont je voulais vous parler aussi. C'est. On parlait à l'époque de la fréquence. Enfin, tout à l'heure, un peu avant, de la fréquentation des musées, etc. Est-ce qu'en dématérialisant l'art, en fait, on crée pas aussi une séparation de classe entre des gens qui auront tu vois la ref entre des gens qui auront les moyens de se rendre.
Je leur envoie les questions en avance pour qu'ils se préparent, et toi t'arrives et tu leur envoies un sujet dessert.
Il est sociologue, je lui demande entre confrères.
Non, c'est intéressant, oui, clairement. Je pense qu'on pourrait parler de fractures numériques ou de fractures même juste sociales, parce que pas tout le monde aurait les moyens peut-être d'avoir accès à tout ce nouveau monde virtuel de l'art, etc. Mais c'est comme un peu maintenant, actuellement, tu vois, genre, bon, de toute manière, les gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de joindre les deux bouts, on va dire, ça, ils vont peut-être pas tous les jours non plus. Enfin, c'est pas leur préoccupation majoritaire peut-être d'aller se cultiver.
C'est la vieille rengaine de plus d'inclusion mène vers plus d'exclusion et blablabla.
J'ai jamais entendu ça. Par contre, je peux vous conseiller un truc que je suis en train de lire en ce moment. Non, mais après, ça parle tellement de ça. Lui, ça s'appelle, c'est l'amour de l'art de Bourdieu. En fait, il étudie la fréquentation des musées et il dit ce que tu dis en fait.
C'est sur les goûts, etc. Non,
ouais,
la distinction.
Ouais, la distinction, c'est encore un autre bouquin, mais là, c'est spécifiquement sur l'art. C'est la distinction, mais sur l'art.
Ok.
Tu mets deux sociologues à côté, c'est.
On les a perdus.
C'est parti.
On peut échanger Bourdieu.
Tu sais, c'est le point Bourdieu. Tu sais, après combien de temps entre deux sociologues Bourdieu est prononcé
à viser. À partir de combien de temps on commence à dire que c'est un génie, tu vois.
Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est très bien que ça vous passionne autant. Je suis désolé, mon petit Loris, ta chaise fait que de tomber, mais écoute, reste.
Reste avec nous.
Je le vois monter, descendre. C'est incroyable. Du coup. Alors le but de parler de ces marketplaces, c'est de dire du coup, il y en a qui sont mieux que d'autres, c'est ça ?
Alors oui et non. Enfin après c'est totalement subjectif.
Ça dépend
subjectif.
Du profil d'utilisateur.
Voilà, je veux être, c'est en fait, subjectif suivant l'utilisateur. Après on a fait des catégorisations aussi, par exemple écologiques, savoir quelle blockchain est énergivore, etc. Donc ça, on peut dire que c'est un peu du meilleur au pire. Mais après, c'est vraiment suivant ce que la personne recherche, finalement.
Et si, par exemple, moi, amateur, novice, j'aimerais m'intéresser à ce genre de choses, comme j'imagine la plupart des gens qui vont nous écouter, vers quoi on devrait se diriger ? Vers quel marketplace ?
Pour commencer.
J'en
ai un pour toi, mais je laisse répondre d'abord.
Ah non, mais, c'est incroyable.
Je laisse répondre d'abord.
Prochaine fois, on invite Guillaume.
Vas-y, Ambre, je vais te laisser répondre à celle-ci.
Alors là, vous me stressez.
Si tu veux que je le mette pendant que tu cherches.
Non, mais en soi, après.
La plus connue, ça serait OpenSea.
Oui, ce serait
ou Sorare.
Sorare, je connais, c'est avec les.
Ah, bah là, c'est ça que je veux
dire. C'est celle qui est française, voilà. D'ailleurs, et puis qu'on embrasse.
Après, c'est les plus connues, mais pour quelqu'un de petit, c'est pas forcément les plus pratiques. Parce que par exemple, il y a OpenSea, ils ont des frais de vente qui vont à 2,5%, alors que Binance, ils ont 1% de frais de vente.
Binance, j'ai déjà entendu parler.
Enfin, ça dépend franchement des frais de vente, des frais d'achat, de ce que la personne recherche. Mais par exemple, il y a un marketplace qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Coinbase. Et pour le moment, ils ont 0% de frais de vente et 0% de frais d'achat. Donc, c'est génial. Et ils font ça pour promouvoir la marketplace. Mais au bout d'un moment, ils vont augmenter leurs frais de vente et on ne sait pas encore à combien de pourcents. Donc, pour l'instant, c'est génial. Peut-être dans quelques mois, ce sera beaucoup moins génial.
Voilà, c'est aussi, il faut se positionner très vite.
Avec combien on peut acheter un NFT un truc basique
ouais. Ça dépend du prix que la personne a mis sur son NFT. Mais après, il faut avoir déjà de la crypto-monnaie. Enfin,
c'est ça, ça s'achète forcément en crypto-monnaie.
Oui, exactement. Okay. Ouais. Mais après, il ne faut pas avoir non plus énormément d'argent. Ça dépend du prix de l'œuvre.
Mais c'est pas forcément des enchères, c'est des prix fixes ou il y a les deux.
Il y a les deux.
Ouais,
y a
tu
les
peux
enchères.
Retrouver les deux systèmes, puis tu peux avoir aussi le système de propriété unique, puis tu peux aussi avoir le système de propriété partagée, en gros, où tu possèdes un NFT, enfin, tu possèdes une partie du NFT, ou en tout cas tu peux le posséder à plusieurs personnes, en étant plusieurs en fait, vous serez plusieurs à l'avoir, et du coup, comment dire, c'est juste différentes formes de possession et donc du coup tu peux y payer même moins cher, genre peut-être à partir de 10 francs tu peux en trouver, mais c'est des trucs très peu cotés. Ça se revoit.
Tu te vantes, après tu dis je suis propriétaire d'un quart de NFT.
D'un quart de Mona Lisa.
tout ça, toutes ces règles, tous ces frais de transaction, vu qu'on parle de blockchain à la base, tout ça est inscrit, c'est très clair, ou il y a des plateformes qui sont un peu opaques et qui nous cachent des choses.
C'est pas clair.
Ah, c'est le comble pour un truc qui se veut.
Il y a des plateformes qui sont extrêmement limpides sur tout ce qui est frais de vente, frais d'achat, le pourcent de royalties. C'est facile à trouver et il y en a. Sincèrement, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher et j'ai pas trouvé.
Okay.
Donc ça dépend, franchement, s'il y en a qui sont très transparentes, il y en a qui sont très opaques sur certains domaines. Et même au niveau du juridique, c'est pas forcément très précis, c'est assez flou. Et c'est vraiment une fois que tu es dans un problème juridique, tu verras ce qui se passe. Mais avant ça, tu sais pas trop.
Ok, donc un NFT-er averti en vaut deux. Et si vous n'êtes pas expert comme moi sur le sujet, il vous faudra écouter la présentation qui arrive demain, donc de votre groupe, demain en U600, ou alors en ligne directement via le cours Comprendre le numérique. Vous pouvez accéder à cette présentation. Parce que là, j'imagine que vous allez explorer environ du coup ces marketplaces, les présenter un peu plus en détail. On a encore quelques minutes du coup pour parler justement de ce travail, ce livrable que vous allez présenter du coup demain. Comment il va se présenter, sous quelle forme ça va être, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez produit?
Bah, concrètement, on peut vous montrer déjà un exemple, mais malheureusement les auditeurs ne le verront pas.
Ah, tu peux le décrire.
C'est en gros un tableau comparatif où chaque plateforme, on en a 18 qu'on a répertoriées, où on donne toutes les infos, toutes les spécificités. Ça peut aller de la blockchain utilisée au justement frais de vente, si important. Le nombre d'utilisateurs pour se faire un peu une idée de combien de personnes utilisent cette plateforme-là. Le TH, enfin la méthode de paiement, excusez-moi. Okay. Ça peut être, bon, c'est très souvent de l'Ethereum, mais on peut retrouver également du Tezos ou un peu d'autres crypto-monnaies. Et puis voilà, il y a encore plein d'autres critères qu'on a mis, histoire de former au mieux les utilisateurs finalement de l'art numérique.
Ok, une sorte de radiographie en fait de toutes ces marketplaces. Et ce tableau comparatif, hein, c'est... En tout cas, votre travail, il sera accessible du coup après, vous allez le partager, parce que là,
oui,
c'est dans le cadre du cours, mais le but, c'est que des gens y aient accès pour qu'ils aient une sorte de petit tuto, de petite aide mémoire pour pouvoir se lancer là-dedans. Vous allez le partager après?
Exactement. Donc, on fait la présentation de demain et ensuite, on va faire un site web qui sera disponible à partir du 24 mai, où dessus, on aura justement notre tableau comparatif avec une introduction, une explication aussi du tableau pour que les gens comprennent. Et puis après, bah, il sera disponible pour tout le monde. Donc tout le monde pourra y voir, guetter les informations.
Mais franchement, c'est super intéressant parce que on est de plus en plus assailli, enfin pas dire assailli, mais voilà, on baigne de plus en plus dans les cryptos, dans les NFT. Tout le monde, des gens nous disent un peu autour de nous, hey, vas-y, tu devrais t'y mettre. Moi j'ai ça, moi je fais ci, je fais ça. Et on a, ouais, mais flemme parce que j'y connais rien et que je vais juste perdre mon argent. Bah maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez le tableau comparatif de Loris, de Ambre, de leur groupe, et vous pouvez vous lancer.
Mais comparer ton marketplace, maintenant, ça va devenir comme comparer ton billet d'avion ou ton hôtel. Ou
genre, c'est ça, il y aura. Chaud, hein. Ah, mais je pense que Trivago, ils vont s'y mettre. Hein. Ils vont vous racheter. Hein.
Vous avez entendu parler de ce machin, c'est une application où tu peux courir et gagner des...
Sweatcoin, ouais, je l'ai, ouais, effectivement.
Mais il y a un mec qui est assez naïf, ça, une connaissance qui est assez naïve et qui tomberait dans tous les pièges des NFT et des cryptos, qui m'a vendu ça comme étant du rêve. J'étais là, mais why?
Enfin, une connaissance.
Donc si tu peux expliquer...
Alors je tiens à préciser, ouais, cette application, elle est assez sympathique, mais c'est ce que tu gagnes comme crypto-monnaie, ça s'appelle un sweatcoin, du coup, et en gros, ça te donne juste accès. Eux, ils ont des marques partenaires, ils fonctionnent avec... ils arrivent à avoir des discounts ou d'offrir un peu des lots. Mais c'est pas du tout des bitcoins, ou non, ça serait trop facile.
Ouais, donc en fait tu cours et puis tu peux avoir des réductions sur quelque chose, ou même des trucs gratos.
Voilà, ouais. Mais il faut quand même faut faire des kilomètres et des kilomètres.
Il faut
ouais, souhaiter fort.
Et du coup, toi t'es dessus, mais vous êtes des convaincus de la... des marketplaces, des NFT, vous êtes dessus ou pas du tout
C'est la question. Moi je garde mon argent en francs suisses.
D'accord.
Je croyais que t'allais dire en France.
En France.
Alors t'as pas compris.
C'est pas le bon move.
non, c'est très intéressant, mais je laisse les autres investir. Pour le moment, je suis pas convaincue.
Ouais. C'est dingue parce que du coup, tu donnes des clés aux autres sans pourtant t'en servir toi. C'est...
Non, mais j'ai déjà pas beaucoup d'argent, donc je le garde.
Tu
fais de l'argent, entreprends, disrupte.
J'ai vu trop d'échecs autour de moi pour le moment.
Les pires influences.
Mais d'ailleurs, moi, je pense que c'est essentiellement ça, c'est que.
Et les risques quand même un peu.
Mais c'est sûrement, c'est le même mécanisme. Il y a des mecs qui sont gagnants et qui peut-être ont les clés, qui sont d'ailleurs les mecs qui gèrent la plateforme, qui ont les clés pour un peu pomper de l'argent aux autres. Et puis il y a plein de perdants, mais par fierté, souvent ils le disent pas, ou plein de trucs comme ça. Tu vois, genre, je pense qu'il y a tellement plus de perdants que de gagnants.
Ouais, il y a une grosse hype autour de ça, mais on n'en parle pas.
On valorise le col gagnant comme on valoriserait Elon Musk, les milliardaires, etc.
Les NFT ont pris de la valeur parce que ce sont les personnes riches qui ont décidé d'investir dedans. Ouais. Et c'est comme toute chose. Au final, il y a une minorité qui gagne énormément avec ça et une majorité qui perd ou gagne très peu avec.
Ce serait marrant de faire le profil social justement de ces gars.
Oh là, ça y est, il est reparti. Et donc, pour Dieu, j'ai lu un article.
T'as eu un article pour Dieu.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas un footballeur.
Il faut insister sur ce côté risqué, hein, puisque c'est des risques réels. C'est comme les paris sportifs. Il faut déjà être très au courant pour se lancer et surtout pas tomber dans une forme d'addiction ou alors de se dire ah bah c'est que du numérique, c'est pas réel, donc on peut vite se prendre dans ce tourbillon là. Alors j'espère que dans votre présentation demain, vous ne manquerez pas de dire que malgré tout, même si certaines marketplaces sont cool, il y a quand même des risques. Vous allez le faire?
Ah oui, bien
vous
sûr. Promettez. Les gens des risques, parce que ça reste un marché très volatile finalement. T'as beau avoir un NFT, avant on en parlait, qui est super cher, etc. Bon, c'est un peu similaire à l'art réel, hein, à l'art concret. T'as beau avoir un tableau qui coûte très très cher, t'es pas dit que tu vas le revendre finalement. Ouais. Et c'est ça le problème. Et puis ça peut décoter très vite. Alors, les NFT peut-être plus vite que le monde réel, parce qu'on valorise peut-être plus le vrai travail de quelqu'un qui a peint ou qui a vraiment travaillé quelque chose.
Oui, parce que l'art, je sais pas, t'achètes une toile de Picasso, bah, t'es quasiment sûr qu'elle conserve sa valeur, voire qu'elle en prend beaucoup.
Ouais, là,
tandis que là, c'est si volatile que...
Voilà.
Eh ben, on a essayé en tout cas de rendre toutes ces questions, on va dire, compréhensibles pour les Pékins que nous sommes. Ah, je sais que celle-là aime bien quand je donne cette référence, vieille référence de l'émission. Voilà, nous sommes des Pékins en ce qui concerne le crypto-art, les NFT. On l'est un peu moins grâce à Loris, grâce à Anne qui ont été avec nous ce soir. Merci d'être venu. C'est courageux d'être venu parler comme ça à la radio pour présenter votre sujet, donc du crypto-art dans le cadre du cours Comprendre le numérique, les cliniques du numérique. Pour lequel vous avez une présentation demain à 18h à Unidufour U600. Si vous voulez, chers auditeurs, vous y rendre, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y aura pas seulement du crypto art, il y aura absolument tous les sujets dont on a parlé tout au long de ce semestre qui s'achève, mine de rien, ce sorte de cycle d'interview. On a parlé, alors là, j'ai pas tout noté, je me lance dans quelque chose d'incroyable. On a parlé de fatigue numérique, on a parlé de fracture numérique, on a parlé de dossier électronique du patient en début d'émission.
Le fameux DEP.
Le fameux DEP. Oui, non, mais toi, heureusement que t'es pas arrivé depuis le début, sinon il aurait que pouffé de rire. Aide-moi, Célia, de quoi on a parlé aussi
On a parlé de l'accès aux droits pour les personnes requérantes d'asile dans le canton de Genève sur la plateforme Wikipédia.
Exactement, et d'autres sujets qu'on n'a pas forcément en tête là tout de suite, mais qu'on vous invite à découvrir, redécouvrir en réécoutant les podcasts des dernières émissions, et pourquoi pas en allant voir tout simplement les présentations de demain en Unidufour U600 ou en ligne.
On parlait du bien commun aussi. Ouais.
Voilà, les sciences des données au service du bien commun, et là je pense qu'on a presque fait le tour.
C'est bon, hein.
Et ouais, en tout cas c'était super intéressant, toutes ces interviews, toutes ces découvertes autour du numérique. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Célia, Guillaume?
Moi j'ai appris énormément de choses.
Ouais, et c'est vrai que c'était à chaque fois un peu insoupçonné, vous voyez, on était là, dossier électronique du patient, bon bah ok, on va parler de santé publique, bon, pas forcément le sujet où on pense qu'on va faire, qu'on va durer longtemps, finalement on a discuté pendant 40 minutes, ça a soulevé des questions absolument essentielles, et c'est fou, et c'est exactement pareil pour le crypto-art, c'est des choses qui sont importantes, dont il faut parler, donc voilà, bah, pour ce qui est de ce semestre... autour du numérique, ça s'achève en tout cas ce soir, c'était bien sympa, et on a terminé en beauté avec Loris, avec Ambe, ça a été ?
Oui.
Ouais, très bien, merci beaucoup.
Et bah voilà, bah, merci à vous d'être venus, merci à vous chers auditeurs, chères auditrices de nous avoir écoutés, n'hésitez pas donc à aller checker tous ces podcasts, il y en a beaucoup, et il s'est passé beaucoup de choses ce semestre, alors je sais pas si c'est la dernière émission du semestre, il y a des examens qui arrivent pour tout le monde, on vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de courage pour ça, et voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir commencé la semaine avec nous, c'était l'équipe de Dans ton campus, il est 20h37, on a un peu de retard, mais c'est pas grave, et bah bonne soirée à tous, et à la prochaine, ciao.
Campus.
Prochain arrêt dans ton
campus.
Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
Campus.
Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard.
Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein.
Campus.
Prochain arrêt dans ton campus.